Il y a une quarantaine d'années, sur les bords du Rhin, alors que je lisais passionnément Hegel, Marx et Max Weber, j'ai conçu le projet qui restait le mien, penser l'histoire en train de se faire, en assumer les servitudes avec autant de lucidité que possible. Extrait des mémoires de Raymond Aron.
Les fenêtres de l'histoire avec Philippe Faureau.
Parmi les grands intellectuels français du XXe siècle, on compte Raymond Aron. Il y avait même eu une formule quelque peu stupide dans les années 1950-1960, « Il vaut mieux avoir tort avec Sartre que raison avec Aron ». Or, c'est justement cette réaction qui me fait agir aujourd'hui en vous parlant de celui qui a été à la fois l'ami pendant un temps de Sartre, mais aussi le pourfendeur de certaines de ses prises de position et de ses idées. Raymond Aron est né en 1905 à Paris dans une famille de la bourgeoisie juive, peu attaché à la religion. D'ailleurs, lui-même restera toute sa vie à la fois attaché à la culture juive et à ses racines juives, mais agnostique. En 1927, il est premier à l'agrégation de philosophie et en tant à la fois que philosophe et germaniste, il va, entre 1930 et 1933, séjourner à l'Institut français de Berlin et à l'Université de Cologne. Il sera aux premières loges pour voir l'avènement au pouvoir d'Adolf Hitler, nommé chancelier le 30 janvier 1933. De 1934 à 1940, il est professeur à l'école normale et mobilisé au moment de la guerre. En juin 1940, il fait un choix fort, le premier grand choix de sa vie. Il rejoint le général de Gaulle et la France libre à Londres. Il aurait voulu participer à des unités combattantes, mais on a estimé que cet esprit, déjà connu par quelques spécialistes, mais cette plume, cet intellectuel, serait peut-être plus utile dans la diffusion d'écrits défendant la position de la France libre. Il va donc participer à un journal, intitulé d'ailleurs La France libre, où il va, avec acuité, avec une réelle lucidité, suivre le cours de la guerre et analyser ce qu'était l'État français à Vichy. Après la guerre, il est professeur à l'ENA en 1945, à l'IEP de Paris en 1948. Il est élu à la Sorbonne en 1955. L'élection ne fut pas aisée parce que il n'était pas marxiste et il venait d'écrire un ouvrage anti-marxiste et anti-communiste, « L'opium des intellectuels », ce qui, sans doute, ne lui a pas facilité son élection à la Sorbonne. Et en 1970, il est élu au Collège de France. De 1960 à 1983, date de sa mort, il va être également directeur de recherche à l'École pratique des hautes études. À côté de ses écrits d'intellectuels, sur lesquels je reviendrai, il a été donc, outre journaliste à la revue France Libre à Londres, mais il a été fondateur des temps modernes avec Sartre en 1945, à un moment où il n'avait pas encore rompu les ponts, puis journaliste et chroniqueur au Figaro de 1947 à 1977. Puis, ayant quitté le Figaro parce que en désaccord avec la nouvelle ligne éditoriale du journal, il avait rejoint l'Express où il fut chroniqueur jusqu'à sa mort. Avant peut-être de regarder un peu le travail de Raymond Aron, intéressons-nous aussi à ses activités, ses hobbies. C'était un grand joueur de tennis, en tout cas, et s'il ne fut jamais professionnel, il a mené une carrière dans sa jeunesse où il était un bon tennisman. Et lors d'une émission, le 23 septembre 1983, invité par Bernard Pivot à l'émission Apostrophe, certains d'entre vous sans doute se souviennent de cette grande émission littéraire et intellectuelle, Bernard Pivot lui avait posé la question s'il avait été jamais tenté, à côté de ses écrits intellectuels, philosophiques, historiques, sociologiques, de faire de la littérature, d'écrire des romans, des poésies. Écoutons ce court extrait de l'émission Apostrophe.
Est-ce que dans votre jeunesse, vous avez jamais songé à devenir un écrivain au sens classique du terme, c'est-à-dire à écrire des romans, des pièces de théâtre?
Je ne crois pas. Peut-être, de manière marginale, celui qui écrit s'est dit à un moment donné, peut-être je devrais inventer ou devrais changer de registre. Mais comme déjà j'ai écrit dans des registres relativement différents, je n'ai pas été tenté réellement d'écrire un roman pour une raison psychologique que je connais. Je suis tout à fait incapable de me projeter vers l'extérieur, ce qui est le plus profond en moi.
Mais il n'y a pas des poèmes d'enfance de Raymond Aron?
Je crois pas. En tout cas, je les ai perdus.
Ah.
Vous l'avez compris, c'est un philosophe qui ne fait pas que de la philosophie. Certes, il a fait une thèse de philosophie sur la question de l'histoire. Introduction à la philosophie de l'histoire, essai sur les limites de l'objectivité historique, où il réfléchit sur la manière dont l'histoire se construit, dont l'histoire est objectivée ou pas par ceux qui sont chargés de la diffuser, de l'analyser, de l'étudier. Il a ensuite, d'ailleurs, beaucoup réfléchi sur l'histoire au travers d'un livre sur histoire et dialectique de la violence, où il s'oppose justement à Sartre, dans la mesure où Sartre, dans sa philosophie, acceptait l'idée que la violence pouvait être véritablement utilisée comme moteur de l'histoire, ce qui fut critiqué par Raymond Aron. De même, de manière posthume, on a publié le livre « Leçons sur l'histoire », qui était en fait le regroupement d'une série de cours qu'il avait menés à la Sorbonne. Mais il s'est intéressé aussi à la sociologie. Comme il nous l'indique dans ses mémoires, il a beaucoup lu Max Weber. Et il est quelqu'un qui connaît, qui pratique la culture allemande. D'où le fait qu'il publie en 1935 ce qu'on peut considérer comme un bon manuel sur la sociologie allemande et qui s'intitule tout simplement « La sociologie allemande contemporaine ». Et ensuite, il s'est interrogé sur la question de la société industrielle. 18 leçons sur la société industrielle en 1963, la lutte des classes, nouvelle leçon sur les sociétés industrielles en 1964, et il développe là une réflexion sur la modernisation de la société, en particulier dans ces sociétés industrielles qui connaissent une forte apogée au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, mais où il s'intéresse également, et ce fut son livre de 1969, sur les désillusions du progrès. C'est-à-dire que ces sociétés industrielles qui ont été beaucoup modernisées, où la technologie s'est beaucoup développée, ne répondent sans doute pas totalement à la demande de l'homme et de la femme, c'est-à-dire elles ne répondent pas à la nécessité finalement du spirituel, de l'intellectuel, et que la machine risque de remplacer l'homme. De ce point de vue-là, il y a une espèce de prémonition chez Raymond Aron. D'autre part, il a fait également de grandes études sur la question des relations internationales. Il fut passionné par cette thématique. Dès 1948, il publie Le Grand Schisme, où il présente le rideau de fer et les deux blocs, communistes et libéralo-capitalistes à l'ouest de l'Europe, qui vont fonder pendant des dizaines d'années les relations internationales. Ensuite, il analyse en 1951 les guerres en chaîne, où il estime que finalement l'équilibre atomique de la terreur rend la guerre fort improbable, même si la paix n'est pas véritablement assumée et assurée. Cette question du nucléaire, il l'a également développée dans un grand livre en 1963, Le Grand Débat, Initiation à la stratégie atomique, qu'il avait fait précéder en 1962 par un autre livre où il regardait comment fonctionnaient les relations entre les grandes puissances et les mondes émergents d'après la colonisation. C'est le livre « Paix et guerre entre les nations ». Et puis ce germaniste s'était lancé dans une grande étude autour de penser la guerre sur Clausewitz, le grand penseur allemand du début du XIXe siècle. Et cette étude se découpe en deux volumes, l'âge européen puis l'âge planétaire. Enfin, en 1977, année où, malheureusement, il est frappé par une hémorragie cérébrale dont il ressort affaibli, mais encore extrêmement lucide, il défend l'Europe au travers d'un livre intitulé « Plaidoyer pour l'Europe décadente ». Il y a aussi chez lui une réflexion concernant l'idéologie marxiste. Soyons clairs, Raymond Aron connaît très bien Marx. Il l'a lu, relu, annoté. Sauf qu'il estime que finalement une grande partie de ceux qui s'en réclament le trahissent, le déforment, en font finalement une espèce de marxisme imaginaire. C'est pour cela qu'il est publié en 1970 « D'une sainte famille à l'autre, essai sur le marxisme imaginaire ». Et que, après sa mort, bien après sa mort, en 2002, on publiera un livre où justement il veut essayer de replacer véritablement ce qu'il croit être le vrai marxisme, d'où le titre « Le marxisme de Marx ». Enfin, dernière thématique de Raymond Aron, c'est la France. Il avait écrit des chroniques de guerre, que l'on relit toujours avec profit aujourd'hui, elles ont été republiées chez Gallimard en 1990, mais également, il y a une lucidité chez lui extrêmement importante à propos de la question de l'Algérie à partir de 1954. Il publie, en 1957 et 1958, deux ouvrages importants de réflexion, « La tragédie algérienne » et « L'Algérie et la République », où il défend l'idée que la France ne pourra pas se maintenir en Algérie. Et d'ailleurs, il n'insiste pas tant sur les questions, je dirais, politiques et humaines, mais tout simplement économiques, que finalement cette guerre va coûter cher à la France, que s'accrocher à ce qui reste de l'empire colonial, eh bien, est une mauvaise option, et que, tôt ou tard, la France lâchera l'Algérie au profit d'autres grands projets. Il n'hésite pas, lui qui avait suivi de Gaulle en 1940, mais qui n'a jamais été un gaulliste de stricte obédience, et qui n'hésitait pas à porter la plume contre ce qu'il considérait des aspects de la politique générale critiquables, eh bien, en 1968, il va écrire « De Gaulle, Israël et les Juifs », où il fait une attaque et une critique sur la fameuse phrase du général de Gaulle à propos du peuple juif, sûr de lui et dominateur. Les événements de mai 68 l'amènent aussi à écrire « La révolution introuvable », et il dira lui-même qu'il ne supportait tout de même pas l'idée que Cohn-Bendit puisse renverser la figure historique qu'était le général de Gaulle. Les éditions diverses et variées ont permis aussi de rassembler ces articles. Dans les éditions de Fallois, vous retrouverez entre 1990 et 97 tous les articles écrits dans le Figaro. Et enfin, en 2005, il y a les chroniques de l'Express intitulées « De Giscard à Mitterrand, 1977-1983 ». Raymond Aron meurt en 1983, à la fin du mois d'octobre, d'une nouvelle hémorragie cérébrale, brutalement. Alors, est-ce que j'ai un conseil à vous donner pour la lecture de Raymond Aron ? Tout n'est pas accessible facilement. Il n'a pas toujours une pensée accessible directement pour le commun des mortels, et je m'y inclus, bien sûr. Mais par contre, je vous conseille une anthologie des textes de Raymond Aron publiée dans la collection Tempus, une histoire du XXe siècle en deux volumes, où vous verrez ses réflexions sur le communisme, sur les relations internationales, sur les questions de guerre et de paix, d'armes atomiques, d'évolution de la politique étrangère des États-Unis et de la France. Je répète le titre, une histoire du XXe siècle, anthologie Raymond Aron en deux volumes chez Tempus.